Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui, toujours dans le sillage de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, consacrée au dictionnaire critique de l'Église, ouvrage paru en 2023 donc aux presses universitaires de France, ouvrage dirigé par Frédéric Gabriel, Dominique Kionapra et Alain Rovel. Et nous sommes en compagnie, comme pour la première émission, de Dominique Kionapra, qui est donc directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, et de Marie-Hélène Blanchet, directrice de recherche au CNRS et responsable de plusieurs articles donc dans ce dictionnaire. Et on va peut-être commencer aujourd'hui par un lemme, par un article qui évidemment interpelle immédiatement un orthodoxe qui prend le livre dans les mains. C'est une entrée qui s'intitule « Hétérodoxie, orthodoxie ». Pas orthodoxie, hétérodoxie, hein, c'est l'hétérodoxie qui est le point de départ. Alors, Dominique Kionapra.
Pourquoi ce choix de hétérodoxie, orthodoxie ? Mais d'abord, pour ne pas avoir une entrée spécifique à hérésie, mais pouvoir rentrer dans l'hérésie par une approche qui est celle de l'hétérodoxie. Et puis, bien sûr, de contraster les sous la forme d'antonymes, hétérodoxie et orthodoxie. Alors, pourquoi hétérodoxie ? Eh bien, pour une raison, pour le coup, historique, hein, il s'agit, comme nous l'avons fait dans l'ensemble du dictionnaire, de pouvoir établir tout un réseau de notices. Et il est évident que là, nous avons dans le réseau l'entrée doctrine, l'entrée dogme et surtout l'entrée autorité. Au fond, qu'est-ce qui va faire autorité dans une confession, surtout lorsqu'on prend l'Église d'un point de vue institutionnel. Hétérodoxie avait le grand avantage de pouvoir permettre une saisie historique suivant laquelle le christianisme s'est doté de références dogmatiques dans un jeu de confrontation. Hein, il faut qu'il y ait, disait Saint Paul, il faut qu'il y ait des hérétiques pour que puisse se dégager une vérité commune. La question est que il fut un temps dans l'histoire où l'autorité magistérielle, dans tous les cas en Occident, n'a plus eu l'impact d'imposer le dogme pour lui-même, et où on est arrivé dans ce que Jacques Lebrun a joliment appelé le régime d'opinion. C'est-à-dire le moment où, au fond, le dogme sur la place publique peut se discuter dans une diversité d'opinions qui ne suppose pas forcément de basculer dans l'hérésie. Autrement dit, notre dynamique, c'est de pouvoir passer d'un temps qui est celui du raidissement anti-hérétique à celui du régime hétéronomique, ou hétérodoxe plutôt, qui est celui du temps de la discussion, et qui est au fond le débouché dans les polémiques et les discussions du temps de la modernité. Celui où au fond le philosophe va prendre, hein, dans le monde des salons, dans le monde des cafés, dans le monde de l'université, des débats, où on puisse discuter des vérités.
Marie-Hélène Blanchet.
Alors, donc, à l'intérieur de cet article, il fallait traiter quand même d'orthodoxie, justement. Mais brièvement, bien sûr, il ne s'agissait pas de développer une quantité de discours sur l'orthodoxie. Et donc, dans la discussion, l'idée qui s'est imposée, qui était relativement originale, mais que j'ai trouvée séduisante, c'était de partir du synodicone de l'orthodoxie et sous le titre « L'Église où l'orthodoxie est une fête ». Parce que l'orthodoxie, bien sûr, la foi est définie comme orthodoxe, mais justement, dans le synodicone, il y a à la fois l'affirmation de l'orthodoxie, une affirmation positive, et les acclamations des orthodoxes, des gardiens de l'orthodoxie, et la dénonciation des hérétiques. Donc c'est un texte, en fait, qui permet vraiment une synthèse sur cette question. Alors je rappelle quand même un petit peu ce que c'est que le synodicone de l'orthodoxie. C'est à la suite de la crise iconoclaste, au moment du rétablissement de la vénération des icônes, donc en 843, que le synodicone est un texte liturgique qui condamne les iconoclastes comme hérétiques, justement, et qui exalte la mémoire de ceux qui ont restauré, justement, l'orthodoxie, donc l'impératrice Théodora et le patriarche Méthode, et qui exalte ensuite, parce que c'est un texte qui s'enrichit au fur et à mesure de l'histoire, qui exalte les empereurs et les patriarches qui les commémorent en tant que justement représentant l'orthodoxie, gardant l'orthodoxie.
Mémoire éternelle. Hein,
mémoire éternelle, de, voilà. Et qui, nommément, et ça c'est très important, par leur nom même, les hérétiques sont sont rappelés eux aussi éternellement en fait hein, pour être damnés, pour être condamnés. Et c'est très intéressant que ce texte s'enrichisse jusqu'au XVe siècle de nouvelles hérésies justement. Donc c'est vraiment un texte qui reste très très vivant et qui intègre par exemple, notamment au XIVe siècle, les antipalamites, le Barlaam et Akindinos. Et qui intègre donc toute une série d'hérétiques. Et donc voilà, en quelques pages, j'ai essayé de résumer, de donner une espèce de quintessence via cette source byzantine de ce qu'on pouvait contraster comme orthodoxie par rapport à la notice du dictionnaire, donc hétérodoxie.
Une source qui est composite, hein, puisque
absolument.
On complète en fonction de ce qu'il y a de nouveau, etc. On voit. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, mémoire éternelle aux uns, et puis anathème aux autres, hein, c'est ça, on définit bien les choses, voilà. Alors, il faut aussi rappeler que le terme orthodoxe, comme on l'utilise aujourd'hui, est un emploi qui est relativement récent, hein,
c'est ça. C'est justement le nom qui est très courant dans les textes jusqu'au... Donc le nom commun, orthodoxia, c'est la fête de l'orthodoxie. Et l'adjectif, lui... l'adjectif, bien sûr, en tant qu'adjectif, il est courant dès les textes patristiques, mais les orthodoxes, par exemple, ou un orthodoxe, l'adjectif substantivé, si on fait un tout petit peu de grammaire, ça, c'est quelque chose qui apparaît plus tard, en fait. Hein. On est quand même dans un contexte, au moment de la création du synodicon de l'orthodoxie, où c'est la défense du christianisme, et du christianisme orthodoxe.
Exactement, vraiment la foi juste, on va dire.
Exactement.
Exactement, ce que le thème veut dire. Et l'hétérodoxie, qui est un mot qui existe depuis l'Antiquité. Hein.
Oui. Oui, oui. Mais dont l'emploi, en tous les cas, dans la partie occidentale, est connexe de ce régime d'opinion dont je parlais tout à l'heure.
Alors, c'est très intéressant parce que, évidemment, pour les orthodoxes, voir le mot orthodoxie défini par l'hétérodoxie étonne toujours, mais évidemment, il y a une justification. Hein. Tout à fait. Alors, écoutez, je pense qu'on va faire maintenant notre pause en prière aussi, bien sûr. Et elle est occidentale, tout à fait. C'est donc un extrait de la messe de Notre-Dame, l'Agnus Dei, donc, de Guillaume de Machaut. Et c'est interprété par l'ensemble Organum, dirigé par Marcel Pérez. Oh. Retour à notre discussion avec Dominique Ionapra et Marie-Hélène Blanchet sur le dictionnaire critique de l'Église. Déjà deuxième émission aujourd'hui. Et maintenant, on va prendre quelques exemples de l'EM aussi, très important évidemment, dans la tradition orthodoxe, mais pour voir le traitement qui est fait dans cet ouvrage. L'esprit, hein, l'esprit c'est fondamental. D'ailleurs, l'esprit est directement lié à l'Église. Enfin, on dit toujours dans la tradition que la date anniversaire de l'Église, c'est la descente de l'esprit, hein, la Pentecôte. C'est la tradition de l'Église orthodoxe, ça. Alors ici, évidemment, le traitement est très différent. Alors, Dominique Ionapra.
Mais le traitement est différent parce qu'il est question de pouvoir accorder la pluralité des églises. Est-ce que l'esprit est traité de la même façon dans toutes les confessions? Ça, c'est un premier problème. Et dans la mesure où notre instrument n'est pas un instrument confessionnel, mais un instrument qui permet d'aborder l'église du point de vue on va dire, séculier des sciences sociales, il s'agit de rappeler que l'esprit répond à trois acceptions. Une acception philosophique, c'est une faculté humaine. Une acception théologique, c'est l'Esprit Saint. Une acception sociologique, c'est l'esprit de l'institution. Et au fond, la dynamique de la notice, c'est de montrer la voie possible d'un traitement de l'esprit avec une majuscule, et donc de se confronter à des traditions théologiques, pour aboutir possiblement en régime de sécularité, au gouvernement des esprits, c'est-à-dire le petit esprit, l'esprit, j'allais dire, de l'éducation républicaine. Est-ce qu'il y a une logique d'évolution qui nous amène de ce grand esprit à ce petit esprit du gouvernement des esprits républicains? C'est la logique que nous avons essayé de prendre. Mais évidemment, au centre, au cœur de la question, c'est le traitement différencié de l'esprit dans différentes traditions, et en particulier, c'est là que nous avons une confrontation très intéressante entre Est et Ouest, avec évidemment un traitement ecclésial qui est différentiel. Au fond, tout se joue dans les rapports esprit, Christ et Église, traitement différencié, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu, chez les théologiens, des influences d'école entre l'Occident et l'Orient. Et en particulier, il est très significatif de constater un retour dans la théologie contemporaine, on va dire des 20e et 21e siècle, de la pneumatologie de provenance orthodoxe sur le terrain occidental. Je pense en particulier à tout ce qu'on a pu dire dans le dictionnaire sur le traitement de la question par Congar, en particulier rapport christologie-pneumatologie, un esprit, puis le Christ, et ce qu'il a qualifié de co-institution pour l'Église, hein, entre christologie et pneumatologie.
Et on doit beaucoup aux travaux du cardinal Congar, évidemment, ça c'est évident. Alors Marie-Hélène Blanchet.
Oui, alors c'est Michel Stavrou qui a écrit quelques mots sur l'esprit dans la tradition orthodoxe, et il insiste justement sur ce que vient de dire Dominique, c'est-à-dire sur une christologie aux très forts accents pneumatologiques dans l'orthodoxie, et qui est une manière de, tout ça étant lié à l'Eucharistie, qui est une manière de mettre l'accent à la fois sur la dimension commémorative de l'Eucharistie, mais aussi, donc via le Christ bien sûr, commémoration du sacrifice, mais aussi sur sa dimension eschatologique, qui est extrêmement importante dans l'Église orthodoxe, et donc l'eschatologie étant liée à l'esprit. Et les deux participent bien sûr de cette conception de l'Eucharistie. Et donc la différence... Alors la différence théologique sur l'esprit entre Orient et Occident, on la connaît, c'est le filioque, donc la procession de l'esprit, la procession du Père seul ou du côté orthodoxe, ou du Père et du Fils du côté catholique. Ce qui est très intéressant, ce sont toutes les conséquences en fait qu'on ne voit pas toujours. Ça c'est vraiment au niveau théologique intratrinitaire. Mais la différence, elle se structure ensuite sur justement le rôle qui est attribué à l'esprit dans chacune des deux Églises. Et du point de vue orthodoxe, le fait que l'Église catholique minore en fait la personne de l'esprit, dévalue presque en quelque sorte la personne de l'esprit, aboutit à une perte de la grâce, et une perte de la grâce au plus haut niveau, au niveau de la papauté, qui est le pape se revendiquant justement comme lui-même inspiré par l'esprit, prophète de l'esprit. Et donc c'est cette position pontificale qui est aussi dénié par les orthodoxes, on le trouve dans la polémique anti-latine du Moyen-Âge, de l'époque byzantine, pour expliquer que en fait le pape qui blasphème contre l'esprit, hein, le péché maximal dans l'évangile, qui blasphème contre l'esprit en utilisant le filioque, en récitant le filioque dans le credo, est lui-même coupé de l'esprit et donc n'a pas vocation à pouvoir exprimer justement la grâce de l'esprit.
Et on voit bien les approches différentes, hein. qui d'ailleurs existe à l'intérieur aussi des différentes traditions, confessions là, dans le monde orthodoxe. Très souvent, est-ce que l'ecclésiologie doit faire partie de la christologie ou de la pneumatologie? Là, on voit, c'est pour ça que peut-être que Michel Stavroux dit certainement que c'est christologique, mais une très forte connotation pneumatologique, et je pense qu'il a tout à fait raison. Dominique Yonapra?
Oui, ce qui est centralement en cause, comme y insiste justement Marie-Hélène, c'est la place de l'institution, c'est la façon dont on va pouvoir discuter, analyser l'institution Église sur la base du rapport à l'esprit. Alors, confiscation qui est contestée de la part du magistère papal, et toute une discussion en profondeur sur, côté protestant, le problème d'un retour à des origines qui sont des origines où l'institution est un fait d'esprit, hein, c'est toute une négation alors qui oblige à remonter à des discussions sur les problèmes du charisme également. Alors, est entendu que les deux entrées, esprit et charisme, sont très complémentaires, et d'ailleurs on a fait jouer des textes dans l'une et dans l'autre des notices pour que ça se réponde. Donc vraiment une problématique menée par la théologie protestante du côté de l'esprit des institutions originelles. Et puis, j'allais dire, la contestation interne sur une institution romaine qui accapare et qui neutralise l'esprit, d'une certaine façon, qui l'accapare à son propre bénéfice pour pouvoir justifier une confiscation de l'autorité inspirée.
Difficile de traiter tout ce qu'il y a dans ce livre en peu de temps, mais enfin bon, un exemple encore, l'article sur la hiérarchie. Alors, qui veut intervenir ? Marie-Hélène Blanchet.
La hiérarchie, le terme est inventé par le pseudo Denis. Donc c'est un terme grec qui se trouve donc dans cette œuvre Hiérarchie Céleste.
Il faut rappeler un peu
Hiérarchie Céleste.
Qui est le pseudo-Denis,
ecclésiastique. Donc le pseudo-Denis, donc c'est un moine syrien, mais on dit pseudo puisqu'on ne sait pas exactement qui c'est. Moine syrien au tournant du 5e et du 6e siècle, et qui a écrit donc ces œuvres extrêmement importantes. C'est lui-même est très influencé par la philosophie néoplatonicienne, donc la philosophie païenne, et c'est un élément qu'on retrouve sur beaucoup de concepts de ce dictionnaire. La philosophie grecque est aussi à l'arrière-plan, et donc qui a théorisé un système dans lequel il établit une équivalence entre hiérarchie angélique, qui est la hiérarchie céleste, et la hiérarchie ecclésiastique, qui est un reflet terrestre de cette hiérarchie angélique. Et donc, ce texte est passé en Occident et a aussi été commenté en Orient dans les textes byzantins. Mais je laisse Dominique en parler
pour
l'Occident.
Il faut dire que les auteurs byzantins, les théologiens, se réfèrent très souvent à Denis.
Hein, ça, c'est
enfin, pseudo-Denis. Oui.
Oui, alors Denis en Occident, c'est un personnage absolument considérable. Michel Le Certeau avait coutume de l'appeler le Hegel étant ancien. C'est-à-dire, c'est au fond l'auteur, alors l'auteur énigmatique, hein, qu'on prend pour le disciple de Paul, qu'on comprend aussi comme le fondateur de l'église Saint-Denis en France, à côté de Paris. C'est un auteur très intéressant parce que, d'une certaine façon, avec son néoplatonisme, il va apporter à côté, pour l'Occident, hein, à côté des fondements scripturaires, un cadre cosmologique de la plus grande importance, où les différentes réalités sont homothétiques. C'est-à-dire que la structure du cosmos, eh bien, va inspirer la structure de la société et jusqu'à la structure de ce petit sanctuaire qui est la personne humaine. Donc, une saisie globale du créé qui va supposer une disposition des ordres de façon graduée et médiatisé, puisqu'il faut passer par un ordre pour pouvoir remonter, avec un processus à la fois la remontée du créé vers l'incréé et le principe du créé vers de l'incréé vers le créé, de façon à ce que on puisse bien restituer ces structures dans une dynamique qui est celle de la création. En Occident, ce texte est reçu au 9e siècle. Il va connaître une diffusion qui est très très importante et très rapide, mais le moment important, c'est capital, c'est celui des premiers commentaires, c'est-à-dire le 12e siècle avec les Victorins et Hugues de Saint-Victor. Et l'intérêt pour nous, c'est que cette notion va peu à peu s'adapter aux réalités occidentales et s'hybrider. Et on pourrait dire que l'élément déterminant, c'est le moment où ça devient un concept politique. Le moment où, avec la traduction duc de Saint-Victor, on va entendre par hiérarchie ce qu'il appelle le sacer principatus, c'est-à-dire finalement un ordre de gouvernement. Et la façon dont ce concept de la théologie se politise, et se politise d'ailleurs dans une ambiance qui va être de plus en plus, à l'époque de Thomas d'Aquin en particulier, un moment qui est un moment aristotélicien, eh bien, vous avez une disjonction des ordres, du métaphysique, on va passer au philosophico-politique, et on va pouvoir penser l'ici-bas, la société d'ici-bas, de façon autonome, en termes hiérarchiques. Et vous avez toute la politique occidentale qui se glisse dans ces questions-là, sans parler de la question, j'allais dire, de type mystique, puisque, avec les franciscains et Bonaventure, cette notion de hiérarchie est intégrée pour la personne, la remontée de la personne en elle-même, conçue, hein, dans ses élans mystiques, comme un processus hiérarchique selon la loi du pseudonique et la loi de divinité, la loi des remontées, hein, de l'inférieur au supérieur en passant par le stade moyen.
Merci beaucoup. Alors évidemment, le temps ne permet pas d'aller plus loin. Il y a des articles très intéressants comme la tradition, par exemple. On aurait bien aimé en parler parce que ce sont des choses qui tiennent à cœur pour les orthodoxes. Mais évidemment, il faut lire ce dictionnaire et, qui est très intéressant, qui interroge parfois, et surtout les gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de traitement. Mais je crois que cela vaut le coup, évidemment, et la peine d'aller lire ce livre. Alors, ouvrage, comme j'ai dit, monumental, de plus de 1400 pages, fait avec la collaboration de combien de
80 chercheurs.
Oh là là, oui. C'était donc la deuxième partie de l'émission sur le dictionnaire critique de l'Église, paru en 2023 aux presses universitaires de France, avec le concours de plusieurs institutions scientifiques, que je vais essayer de résumer ici. Alors d'abord, évidemment, dans le cadre du Labex Commode de l'Université de Lyon, c'est un projet ANR donc, et publié avec le concours de l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités, de l'École Normale Supérieure de Lyon, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et du Centre d'Études en Sciences Sociales du Religieux. C'était la deuxième émission donc sur le dictionnaire critique de l'Église avec Marie-Hélène Blanchet et Dominique Yonaprin. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation Vanessa Nadjar, prise de son d'Ali Yaha. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau. Oh.